Il est 8h.
Comment je peux expliquer aux Françaises et aux Français que nous n'avons pas rendu la vaccination obligatoire et que nous rendrions un passeport vaccinal obligatoire.
C'est le débat du moment. Faut-il être vacciné pour avoir droit au monde d'après ? Celui sans masque, celui où on voyage, où on se fait la bise en arrivant au restaurant. Jean Castex n'y est pas favorable, on vient de l'entendre. Mais c'est aussi une question à l'échelle de l'Europe, puisque les frontières sont en jeu. Nous appelons Bruxelles dans une seconde. Comment fait un œnologue qui a perdu l'odorat ? Eh bien, il tente une rééducation olfactive. Reportage à Bordeaux, où des étudiants de la filière vin ont un petit souci. À cause du Covid, ils confondent l'odeur des fruits frais avec celle du pain grillé. Dans ce journal, un ancien Premier ministre de 91 ans au tribunal pour une affaire vieille de plus d'un quart de siècle, Édouard Balladur et la campagne de 95. Et puis le dossier d'Europe 1, qui en veut aux antennes télécom, gilets jaunes radicaux, activistes anarchistes, les dégradations de pylônes 5G ou de télé ou de radio se succèdent. Nos spécialistes technologie et police-justice ont enquêté.
Juste après ce journal, dans un contexte des plus incertains, l'industrie du tourisme particulièrement frappée en France. Les vacances scolaires en vue, le débat sur le passeport sanitaire aussi. Sébastien Bazin, PDG du groupe hôtelier Accor, répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le paradoxe a été souligné et commenté. Non seulement les Français sont depuis peu favorables majoritairement au vaccin, ce qui est déjà une grosse évolution en quelques semaines, mais les voilà même d'accord avec une obligation d'être vaccinés pour certaines activités, prendre l'avion, se rendre en maison de retraite ou à l'hôpital, mais prendre le train ou le métro, selon un sondage IFOP publié dimanche.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
En ligne de Bruxelles pour Europe 1, la Commission européenne fera des recommandations sur cette idée d'un passeport vaccinal, comme on dit, mais ça pose beaucoup de questions.
Oui, et d'abord des questions techniques. Si l'idée c'est de créer un document numérique, il faut que sa validité soit vérifiable partout en Europe via une plateforme commune. Il faut donc des garanties pour la protection de nos informations médicales qui sont sensibles. Encore plus important, il y a un risque de discrimination pour les personnes non vaccinées. Il inquiète le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic.
La vaccination se fait sur la base du volontariat. Nous allons avoir beaucoup de gens qui ne pourront pas être vaccinés pour des raisons médicales. D'autres ne voudront tout simplement pas être vaccinés. Nous allons prendre toutes les précautions pour être sûrs qu'ils ne sont pas traités de façon différente et que leurs droits ne sont pas restreints.
La solution, ça pourrait être de donner le choix aux voyageurs, présenter un certificat de vaccination ou un test négatif. Enfin, il y a encore des incertitudes scientifiques. Est-ce que quand on est vacciné, on est sûr qu'on ne transmet plus le virus ? Bref, malgré l'enthousiasme de la Grèce, qui pense déjà à sauver sa saison touristique, beaucoup de pays, dont la France et l'Allemagne, pensent qu'il faut ouvrir le débat, mais pas se précipiter. Si passeport vaccinal européen il y a, ça ne sera sans doute pas avant l'été.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, et on note que c'est la Grèce, pays touristique s'il en a qui pousse pour un passeport vaccinal, car l'enjeu est bien celui-là, le retour à la vie normale et le redémarrage du tourisme.
Sur la vaccination en France, Jean Castex a promis hier soir une nouvelle accélération, notamment dans les EHPAD, 430 000 injections dans les deux semaines à venir, selon le Premier ministre, alors qu'il n'y en a eu que 100 000 dans ces établissements depuis le début de la campagne.
Et on en vient donc à cette question vertigineuse. Peut-on encore devenir œnologue quand on a perdu l'odorat?
Ben oui, ça vous est peut-être arrivé si vous avez eu le Covid, une anosmie souvent accompagnée d'agueusie, la perte du goût. Pas très grave quand ça revient vite, plus gênant quand ça dure et quand votre futur métier en dépend. À l'Institut de la vigne et du vin à Bordeaux, où s'est rendu Stéphane Place, 5 étudiants sont pris en charge par un programme de rééducation.
C'est fin septembre que le Covid est venu priver Amélie du goût et de l'odorat. Très progressivement, cette étudiante de 22 ans en première année d'œnologie, ici à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, récupère ce sens indispensable, mais pas comme avant, il demeure parasité.
Si on prend l'exemple d'un vin rouge, une personne normale pourrait sentir des odeurs de boisé, des fruits, fruits frais, fruits cuits, etc. Et moi aujourd'hui, ces odeurs sont masquées par notamment une odeur parasite, comme un petit peu du pain grillé. C'est pas des très bonnes odeurs, on va dire.
D'où ce protocole de réapprentissage imaginé ici à l'Institut, avec notamment un kit de rééducation à base d'huiles essentielles. Laurence Génie, directrice adjointe de l'ISVV.
Nous avons développé des petits stylos qui contiennent ces odorants. Un odorant fleur, un odorant de la famille des fruits, un odorant de la famille des épices et un odorant de la famille des herbes aromatiques. Tous les jours, ils doivent réaliser un exercice de flairage et répondre à différentes questions.
Sans oublier des exercices d'imagerie olfactive mentale, une méthode que l'Institut des sciences de la vigne et du vin détaille et met gratuitement à disposition de tous sur son site internet.
C'est une figure de la Ve République qui est jugée à partir d'aujourd'hui à Paris.
Une figure, car on parle là d'un ancien Premier ministre, Édouard Balladur, 91 ans, aux côtés de François Léotard, 78 ans, ancien ministre de la Défense, et ce pour des soupçons de financement occulte de la campagne présidentielle de 95, en marge de la tentaculaire affaire Karachi.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
C'est la Cour de justice qui se penche sur les faits.
Oui, c'est le volet ministériel d'une affaire qui a valu à 6 autres protagonistes d'être condamnés à des peines de 2 à 5 ans de prison, mais les deux anciens ministres ne peuvent être jugés que par cette cour particulière, la Cour de justice de la République, seule habilitée à juger des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Quant aux faits, ils remontent aux années 90 dans le cadre de contrats d'armement passés entre la France et l'Arabie Saoudite, et les magistrats soupçonnent qu'une partie des rétrocommissions, 10 millions de francs à l'époque, est pu servir à alimenter les caisses de campagne d'Édouard Balladur. L'un de ses avocats, maître Félix de Bellois, affirme que ce dernier a hâte de s'expliquer.
Ça fait 10 ans maintenant, plus de 10 ans qu'il subit ces accusations, qui sont des accusations très graves, très lourdes. Il est grand temps qu'il puisse enfin s'en expliquer et surtout obtenir une relaxe et être innocenté. Moi, je suis admiratif de sa ténacité et de sa détermination.
À 91 ans, Édouard Balladur a annoncé qu'il serait présent pour les moments importants de cette audience.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Autre procès qui commence aujourd'hui, celui de Georges Tron, maire de Draveil, dans l'Essonne, ancien secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. Affaire de viol et d'agression sexuelle pour laquelle il avait été acquitté en 2018, tout comme son ancienne adjointe à la culture, Brigitte Gruel. Mais le parquet général avait fait appel.
Aux États-Unis, un désaccord au sommet entre Donald Trump et Joe Biden sur l'ouverture des frontières américaines.
Oui, l'administration sortante l'avait annoncé cette réouverture pour le 26 janvier, mais l'équipe du futur président, qui sera investi demain, affirme que, vu le contexte sanitaire, ça n'est pas le moment. C'était lundi dernier, près de Limoges, un collectif anti-5G a incendié une antenne relais. Une semaine plus tard, le signal n'est toujours pas totalement rétabli et 1,5 million d'habitants ont des problèmes pour capter le réseau, la radio, la télé, parfois les trois en même temps. Et c'est loin d'être la première fois.
C'est le dossier d'Europe 1 ce matin avec Guillaume Biet, chef du service police-justice, et Clément Le Saffre, spécialiste nouvelles technologies. Bonjour à tous les deux. Un mot d'abord avec vous, Clément. Les actes de vandalisme contre des antennes, c'est fréquent ?
Ouais, oui, hein, selon les informations que nous avons pu recueillir, il y a eu 70 dégradations d'antennes l'an dernier en France, essentiellement au printemps. Tous les opérateurs en sont victimes. Et même s'il y a 80 000 antennes sur le territoire, ça fait quand même une attaque tous les 5 jours.
Alors Guillaume Biet, vous avez enquêté sur les profils de ceux qui s'attaquent aux antennes. Qui sont-ils ?
Eh bien, ce sont des contestataires hein, de tous âges, mais pas tous issus du même mouvement. Vous avez d'abord les anti-5G qui détruisaient les antennes dès le printemps dernier, avant même que le réseau soit déployé, parce qu'ils pensent que la 5G nuit à l'environnement, à la santé, aux animaux, ou qu'elle contribue à propager le Covid, thèse complotiste. Il y a aussi les gilets jaunes radicaux et les activistes anarcho-autonomes. Ils sont militants anti-réseau, anti-médias, contre une soi-disant surveillance généralisée. Certains le revendiquent et diffusent même des conseils sur Internet sur la manière de détruire une antenne. Et puis il y a ceux un peu plus à la marge qui agissent par bêtise, par mimétisme ou même sous l'effet de l'alcool, figurez-vous. Dans la moitié des enquêtes, il y a déjà eu des interpellations et plusieurs condamnations, jusqu'à 4 ans de prison ferme infligées l'été dernier par le tribunal de Lons-le-Saunier.
Clément Le Saffre, ces dégradations d'antennes, elles ont des conséquences directes pour nous.
Oui, des conséquences nombreuses et surtout très concrètes. Je vais prendre un exemple. Début décembre, une antenne a été incendiée à Marseille. 3,5 millions de personnes ont été subitement privées de réseau mobile, de radio et télé. Là, on l'a dit, c'est 1,5 million près de Limoges. En fait, les réparations d'antennes sont très complexes. Il faut d'abord rétablir partiellement le signal. Ça veut dire qu'on ne capte pas très bien, ni partout dans la région. Ça, c'est temporaire, ça dure quelques jours. Mais pour un retour à la normale, ça demande parfois des semaines, voire des mois.
Et on imagine que tout ça a forcément un coût.
Oui, installer une antenne coûte entre 100 et 200 000 euros. Si l'incendie détruit tout le site, il faut reconstruire en partant de zéro. Et comme me l'a expliqué Nicolas Guérin, le président de la Fédération française des télécoms, au-delà du coût, ces réparations empiètent sur le déploiement du réseau mobile.
Ce qui est embêtant aussi dans tout ça, c'est que toutes les ressources qu'on met sur ces réparations, elles sont détournées de l'amélioration de la qualité de service et de l'extension de la couverture. Vous savez qu'il y a une impatience de nos concitoyens aussi en ce moment sur les zones blanches, les couvertures de zones blanches. Quand vous devez réparer un site qui a déjà été construit, c'est autant de personnes qui sont détournées de cette couverture des zones blanches.
Clément, est-ce que les opérateurs, avec toutes ces dégradations qui se succèdent, est-ce qu'ils travaillent pour tenter d'éviter des nouvelles destructions ou agressions, entre guillemets ?
Bah, ils sont en tout cas très préoccupés par ces attaques. Hein. Il y a un culte du secret autour des antennes. J'ai pu visiter, moi, un site 5G il y a quelques semaines, mais à la stricte condition de ne pas révéler son emplacement. Dans le climat de défiance actuel envers la 5G, les opérateurs ne prennent aucun risque. Alors, selon nos informations, les opérateurs, les gestionnaires d'antennes et les services de police travaillent sous l'égide du ministère de l'Intérieur pour renforcer la coopération entre tous ces acteurs. Mais un opérateur nous le confie, on peut difficilement faire plus. Les attaques sont par nature imprévisibles.
Qui en veut aux antennes 5G ? Le dossier d'Europe, hein, signé Guillaume Bié et Clément Le Saffre. Merci beaucoup à tous les deux.
Cette information, en bref, le journal L'Équipe ne paraît toujours pas aujourd'hui. La grève des salariés continue contre un plan de suppression d'une cinquantaine de postes. On en est au 11e jour d'affilée sans parution du quotidien sportif.
Que serait le cinéma français sans les coups de gueule de Jean-Pierre Bacri, l'acteur et scénariste mort hier à 69 ans ?
Et ceux qui connaissaient personnellement Jean-Pierre Bacri le disent, derrière cette furieuse tendance à râler à l'écran, se cachait un homme d'une gentillesse fini dans la vraie vie. L'annonce de sa mort hier d'un cancer à 69 ans a ébranlé ses camarades du cinéma français.
Notre tristesse est immense, disent Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisateurs du Sens de la fête. Christian Clavier regrette sa grande culture et sa grande intelligence. Nathalie Baye évoque un génial, un merveilleux Jean-Pierre Bacri.
Et finalement, la meilleure façon de lui rendre hommage, bah c'est peut-être tout simplement de l'entendre.
Et Arlette, elle est là-haut ?
Non, elle n'est pas là, Arlette, figure-toi. Qu'est-ce qu'elle fout encore, ça ? 8h moins le quart, ça continue. Et madame est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi ? Pour bavasser avec sa copine, comme d'habitude.
C'est beau l'amour quand même, hein ?
Quoi ? C'est beau l'amour ?
Bah la façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension.
Mais qu'est-ce que tu connais, toi ? Tu vis avec quelqu'un ? Quand tu vivras avec quelqu'un, depuis 15 ans, tu viendras me voir, puis on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi.
Tu vas trop au cinéma, disait Jean-Pierre Bacri à Agnès Jaoui dans Un air de famille. Bon, on aimerait bien aller tout court, hein, au cinéma. Et revoir Bacri sur grand écran.
Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. 8h12.